gars qui ne comprennent pas la,
l'arabe.
Français, puisqu'on parle en français. S'il y a quelqu'un qui ne parle pas le français, on fait un arabe. Mais vers quelle langue ? C'est ça la
question. Ah, bon. إذن سأتكلم بالعربية وأترك الخيار لبقية المتدخلين في التدخل باللغة التي يريدونها بكل إيجاز لكي أترك الكلمة لبقية المتدخلين. هذه الورشة المخصصة لموضوع الانتخابات. بداية أقول أني جد سعيدة بحضوري في هذا الجمع الكريم من مكونات المجتمع المدني الذين عرفتهم أو عرفت أغلبهم في سنوات الجمر، ونحن اليوم نلتقي في مرحلة جديدة وحساسة في تاريخ البلاد. الإشكاليات التي تطرحها مسألة الانتخابات أعتقد أنها على غاية من الأهمية ومن الخطورة، إذ بنجاح هذه الانتخابات التي هي الأولى، أتمنى أن تكون هي الأولى كما نطمح إليها، يعني نزيهة وشفافة، بنجاحها سيكون هناك La traduction ne marche pas.
Alors, je parle en français.
Bon.
S'il vous plaît, pour le téléphone, mettez silencieux, s'il vous plaît.
Oui. Hein?
Bon. Ça marche. Tu peux y aller, Leïla.
Oui.
Ça marche. Oui. Et à cool. أنا ما عنديش إشكال كان باش نتكلم بالفرنساوية.
لا وزي. لازم نتكلم بالزوز.
Bon, alors. Bon, je vais parler en français. Bon. Je crois que tout le monde comprend le français ici. Alors, bienvenue à tous mes amis de la société civile. J'ai dit que je connais. Que j'ai connu dans les années difficiles de l'association de magistrats tunisiens et que je retrouve maintenant dans d'autres conditions où le pays aspire à une transition vers la démocratie. Dans cet atelier réservé aux élections, je pense que la réussite de ces élections est une étape très importante, primordiale pour le passage vers la démocratie. Les questions que pose ce problème-là, c'est quel mode de scrutin choisir ? Tout d'abord parce que le mode de scrutin n'est pas une technique, parce que dans le choix du mode de scrutin, il y a un arrière-fond politique. Deuxièmement, le problème du contrôle. Contrôle pas seulement après les élections, mais le contrôle dès le début du processus électoral. Donc je pense que la société civile a un rôle très important à jouer. Et la question primordiale à poser, c'est quelle société nous voulons ? Si c'est une société démocratique, moi je pense en tant que magistrat que il y a le rôle des magistrats à jouer dans le contrôle électoral, mais une autre question qui se pose, est-ce que la magistrature, la justice telle qu'elle est maintenant, qui n'a pas du tout changé après 2 mois de la révolution, est-ce qu'elle est capable de jouer son rôle de contrôle des élections, ou bien est-ce qu'on demande à ce qu'il y ait un contrôle international? C'est là, je pense, les grandes questions à poser, et je veux plutôt laisser la parole aux autres intervenants Et je vous prie pour que la parole soit donnée à tout le monde, que les interventions se limitent à 10 minutes maximum. Et merci de votre attention. Alors, je passe la parole à Madame Bensedrine.
Bonsoir, merci de votre attention. C'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie que nous allons organiser des élections libres. Et le défi est énorme parce que ni notre administration est outillée pour cela, ni les instruments politiques et les instruments institutionnels ne sont encore mis en place pour relever ce défi et surtout pour arriver à cette échéance électorale. La seule chose que nous savons, c'est que les Tunisiens, après la Révolution, se sont tous dressés presque comme un seul homme pour exiger que les prochaines élections soient des élections d'une constituante et pas des élections présidentielles. Et il a fallu batailler pendant plus d'un mois et demi pour obtenir un changement de cap du gouvernement, parce que les ministres au gouvernement avaient d'autres, apparemment, agendas, et ils souhaitaient nous restituer l'ancien régime sous de nouveaux visages en procédant immédiatement aux élections présidentielles, ce qui signifie que ces élections auraient eu lieu sur la base de la constitution actuelle qui est taillée sur mesure pour élire un bon dictateur. Finalement, on a obtenu, et c'était la revendication de l'ensemble de la société civile et de toute la population, on a obtenu que le gouvernement annonce solennellement, à l'issue d'un remaniement ministériel de ce gouvernement, qu'ils vont convoquer le corps électoral le 24 juillet prochain pour élire une assemblée constituante dont le rôle fondamental est d'écrire notre nouvelle constitution. C'est un défi énorme, c'est une nouvelle page que notre peuple aura à écrire, un peuple élu, ce sera la première instance élue qui aura toute la légitimité qui est exigée pour que cette assemblée soit réellement souveraine et décide pour l'avenir du peuple tunisien, pour que ces institutions prochaines soient de réelles institutions démocratiques. La date du 24 est aujourd'hui considérée comme peut-être trop ambitieuse par rapport au processus que nous devons mettre en marche. Ce n'est pas important, à mon sens. Le plus important, c'est que le code électoral, qui doit être adopté assez rapidement et qui doit inclure un certain nombre de comportements ayant un rapport avec cette élection et que je vais citer maintenant, eh bien, il faut que ce code existe. Et pour qu'il existe, il faut qu'il soit en débat. L'assemblée consultative qui s'appelle la haute autorité, je ne sais jamais terminer le nom de cette institution, c'est le nom le plus long que je connaisse. Donc il s'agit de celle-là, vous m'avez compris, et cette institution est censée jouer un peu le rôle de chambre des députés, si vous voulez, et elle va, elle, débattre de ce code électoral et le soumettre après débat au gouvernement et au président de la République qui va le transformer en loi et mettre en route la machine. Nous disons que c'est pas important les dates. Cette date avait un rôle très important pour les Tunisiens. Ça avait la valeur d'un engagement qu'on n'allait pas faire avorter la révolution, qu'on n'allait pas faire dévier la révolution. Et cet engagement était symboliquement extrêmement important pour les Tunisiens. Cette date était importante pour nous. Il n'est jamais difficile, si la machine électorale, une fois mise en route et arrivant à cette date butoir à quelques semaines ou quelques mois de cette date butoir disent que nous avons besoin de reporter, ça c'est pas la fin du monde de reporter, mais nous pour l'instant nous travaillons avec cette échéance et c'est extrêmement important de travailler en cherchant à la respecter. Quand on parle d'élection, comme je disais, il y a d'abord le mode de scrutin. Le mode de scrutin, ça signifie que nous devons faire un choix. Déjà, il y a un projet qui a été soumis par cette commission, la haute autorité. Le Sénat, comment on doit l'appeler ? Haute autorité ou autre quoi ? Haute commission. C'est ce malège, là.
Haut comité.
Voilà, je vais appeler haute comité pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le haut comité, donc chargé de réforme politique, il y a déjà un projet. Il y a eu des débats dans la société civile et nous-mêmes, dans le cadre du Conseil des libertés, on a organisé une conférence où des professeurs de droit et des experts de l'Union européenne ont intervenu pour nous éclairer un petit peu le paysage. J'avoue qu'à l'heure qu'il est, personnellement, je n'arrive pas à trancher les deux types de scrutin. Le scrutin à liste, majoritaire à liste, même corrigé, ou le scrutin uninominal présente tous les deux des avantages et des inconvénients. Nous avons décidé, dans le cadre de la coalition de la société civile, de faire un grand séminaire, mais très vite, bien entendu, parce que le temps court contre nous, pour justement inviter tous ces experts, alors non seulement de l'Union européenne, mais même des Nations unies, de la Commission de Venise, de différents organes qui ont travaillé sur ça à travers le monde entier, et d'écouter, bien sûr, avec bien sûr nos experts tunisiens, et de voir un petit peu la somme des inconvénients et la somme des avantages, et voir s'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose qui serait au milieu, qui puisse, je ne sais pas, on peut toujours créer, vous savez, on peut être inventif quand on le veut, il suffit de dire au tailleur ce qu'on veut pour qu'il vous taille le meilleur costume. Donc nous, on va leur dire qu'est-ce qu'on veut, et on va essayer de leur demander de créer l'inexplicable, ceux qui n'ont pas l'habitude de produire. Et nous avons eu une séance de travail avec les membres de la commission de Venise qui sont venus à Tunis, ils sont venus nous voir, ils vont revenir nous voir pour cette échéance, enfin pour cette réunion des ONG, pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il nous faut. Et ils disent, après tout, pourquoi pas, on ne nous a jamais posé ce genre de questions, eh bien on va y réfléchir et peut-être qu'on trouvera les bonnes solutions qui conviennent au cas tunisien. Parce que nous n'avons pas, c'est pas un parlement qui aura à gouverner que nous allons élire, c'est un parlement qui aura juste à écrire notre constitution et les enjeux sont différents, y compris en termes de dispersion des voix ou des groupements ou des choses comme ça, mais c'est des choses qui vont être discutées. Aujourd'hui, on ne peut pas encore trancher. En tout cas, il y a des projets, il y a des propositions. Il s'agit de les étudier et de discuter entre nous, qu'un débat public se passe. Nous avons aussi sollicité notre télévision nationale pour qu'elle organise des débats avec nous et que le public participe à ce débat et qu'on puisse décider en toute conscience ce qu'il nous faut. Une chose est sûre, c'est que on n'a pas inventé les élections en Tunisie. Hein. Les élections, ça existe dans le monde occidental, ça fait des centaines d'années. Et il y a des expériences et le concentré de ces expériences à travers des documents et des textes, notamment auprès de la Commission de Venise qui émane du Conseil de l'Europe où la Tunisie est membre et il n'y a pas que des Européens dans le Conseil de l'Europe, vous le savez tous. Donc c'est un organe qui réunit et des Européens et des gens de la Méditerranée et même en dehors de la Méditerranée. Et donc toutes ces expériences, elles sont rassemblées dans des documents et il y a quelque chose qu'on appelle le code de conduite qui donne les normes internationales. Donc, en termes de normes, c'est très utile de savoir que pour qu'on puisse parler d'élections sincères et justes, et libres, pardon, il y a un certain nombre de critères. Un des critères, c'est que le suffrage soit universel. Un second critère, c'est que le suffrage soit égal. Je vais vite, hein. Après, dans le débat, si vous avez besoin, je peux aller entrer dans chaque détail. Troisième critère, c'est que le suffrage soit libre, donc il y a des conditions de liberté, des conditions d'égalité, des conditions d'universalité à remplir, que le suffrage soit secret et que le suffrage soit direct. Ce sont les standards internationaux qui doivent exister pour n'importe quelle élection libre et sincère. Il y a aussi des garanties procédurales. Il est impératif qu'il y ait une organisation, qu'un organe impartial organise ces élections. Il est, chez nous, on a toujours connu le ministère de l'Intérieur qui est à la fois jugé parti et en fin de parcours, même si dans les centres de dépouillement, ils font un petit effort pour dépouiller après avoir bourré les urnes. Quand ils arrivent au ministère, ils regardent même plus ce qu'il y a dans les bourrages et c'est un jeu d'écriture. Toi, tu es méritant, tu as ça. Toi, on veut de toi, tu as tant, et etc. Donc, nous qui n'avons jamais connu dans notre administration, en tout cas, la seule chose où elle est experte, c'est la fraude. Il est exclu de lui confier un quelconque rôle dans cette organisation. Et la qualité de cet organe, les critères de cet organe, l'organisation de cet organe, c'est absolument fondamental pour réussir nos élections, pour qu'elles soient sincères. Et donc, non seulement des critères d'intégrité de ceux qui veillent à cela, mais également, il faut que cet organe comporte, à part l'aspect organisation qui passe de la carte électorale, enfin pas de la carte, pardon, de l'inscription sur les listes jusqu'à la phase finale du dépouillement, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de critères et plutôt des sous-organes, si vous voulez. Par exemple, je crois qu'elle est dans le projet qui a été soumis, et c'est une bonne idée qu'il y ait une sorte de cour qui va juger des litiges électoraux et qui sera là pour juger en permanence, qu'on ne va pas attendre que la justice tranche. Donc c'est un corps qui aura les compétences judiciaires pour juger des litiges électoraux et qui sera en permanence avec cet organe. Il y aura également un autre organe qui va vérifier le problème du financement des campagnes. Et c'est une question cruciale, même si je saute un petit peu. Le financement est extrêmement important. Il y a des normes que nous allons peut-être suivre, parce que ça, c'est des normes, hein, ce n'est pas des modèles qu'on implante. Par exemple, dans des pays où il y a des élections libres, il est très important que chaque parti, chaque liste, même si elle est indépendante, ait un compte électoral. Un compte unique où on sait exactement le financement public, quelle somme est arrivée dans ce compte et que tout ce qui sort sera sur pièce justificative et après qu'on fasse les comptes. Et si quelqu'un veut recevoir des dons, eh bien qu'on sache la source du don et que le don soit transparent et que pour tous les partis et pour toutes les listes, si c'est des listes ou tous les candidats indépendants, ce type de compte unique puisse exister. Sinon, on a ce qu'on a l'habitude d'appeler, que les Libanais appellent le mel intirabi, ça signifie que c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Et là, le risque est extrêmement important. Il y a bien entendu aussi la question de l'observation des élections, l'observation du processus lui-même, le processus électoral, et l'observation des médias, parce que les médias jouent un rôle important dans la campagne électorale et le comportement des médias est décisif pour que le citoyen se forme une opinion sur le choix qu'il doit faire, sur les candidats en lice, que tous aient un espace égal où ils puissent s'adresser aux citoyens et que leur accès aux médias et leur accès par conséquent aux citoyens soit égal. C'est une des conditions de sincérité des élections et de liberté des élections. J'ai dit en grosso modo un peu le processus. Je veux juste terminer en disant que nous, en tant que société civile, malgré et en plus de notre implication au sein de ce haut comité où nous sommes tous pratiquement représentés, nous avons décidé d'avoir notre propre agenda, notre propre feuille de route, où un des points prioritaires, ça va être le processus électoral, que nous allons définir ensemble et faire campagne pour que ces choix soient respectés. Il s'agit d'un agenda citoyen. Cela signifie que il n'est pas dans des logiques d'enjeu de pouvoir, il n'est pas dans des logiques de « moi j'aurai tant et toi tu auras tant et moi je ferme les yeux parce que toi tu vas me fermer les yeux sur ce que je vais faire », il est dans une logique de faire en sorte que nous ne rations pas le coche, que nos prochaines élections soient des élections modèles, comme la révolution tunisienne a été suivie, le modèle tunisien, s'il réussit, ce sera le modèle pour tout, l'ensemble de la région, et peut-être que nous allons aider les autres à créer des situations où, dans ce monde arabe, où on a dit que notre fatalité génétique, c'était que nous soyons dirigés par des dictatures, peut-être que nous serons la troisième génération des démocraties pour l'avenir. Et je vous remercie.
Merci, Madame Zedrine. Maintenant, je passe la parole à Maître Anour Koussri, avocat et du comité directeur de la Ligue des droits de l'homme.
Merci. Merci. Bon, je vais parler en français pour éviter... Vous m'excuserez pour les fautes, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette langue. Bon, moi personnellement, je vais m'aventurer sur certaines questions. D'abord, je veux dire qu'il y a eu un projet qui est paru aujourd'hui dans le journal Saber, je l'ai vu au journal Saber. Moi personnellement, je l'ai eu avant et je l'ai étudié et je trouve que c'est une bonne base de départ. Ce projet a été distribué par le Haut Comité. Bon, il y a un autre projet, mais le projet qui est distribué par le Haut Comité, moi je considère qu'il y a une bonne base de départ. Pourquoi ? Parce qu'il a pris en considération un certain nombre de revendications du mouvement démocratique pendant les élections truquées qui ont été organisées auparavant par le régime de Ben Ali. Je peux citer par exemple le fait que les gens vont... voter avec leur carte d'identité, pas avec la carte électorale, avec laquelle il y a beaucoup de choses. 18 ans, à partir de 18 ans aussi, pour les jeunes. Je peux aussi citer le cas de la nationalité. Mais il faut faire plus, là. Il faut faire plus, parce que le projet dit que toute personne, en ce qui concerne la candidature à la constituante. Le projet dit tout Tunisien de père ou de mère. Mais il y a beaucoup de Tunisiens qui sont d'origine algérienne, qui ont eu la nationalité tunisienne. Non, qui ont une nationalité, oui. Et qui vivent en Tunisie de père en fils depuis longtemps. Et dont la mère et le père sont algériens, de nationalité algérienne. Je ne vois pas pourquoi on ajoute cette condition-là. À mon sens, il faut éviter ça. Pour l'élection, le projet pose le principe de l'égalité homme-femme en cas de scrutin de liste. Mais il dit après que s'il y a une liste de plus de deux personnes, on peut mettre au moins une femme. Donc, c'est pas clair dans... Moi, je suis pour l'égalité, hein, en cas de scrutin de liste. Je suis pour l'égalité dans les listes électorales, une femme, un homme, ou un homme, une femme, etc., etc. Et le projet n'est pas clair sur cette question, mais quand même, il y a une avancée. Shabbat, oui. Mais je vais insister sur les questions où il y a problème dans le projet qui m'intéresse, parce que vous savez que la Ligue tunisienne des droits de l'homme observe les élections en Tunisie, même si on sait qu'elles vont être falsifiées, mais pour faire pression sur le gouvernement, parce qu'il y a aussi des partis qui participaient, donc on travaille un peu avec eux, des partis qui ne participent pas aux élections, donc eux-mêmes sont intéressés par ces élections pour démontrer que ces élections sont falsifiées, donc c'est pourquoi on ne participe pas. Voilà les dépositions qui existaient avant. Donc on a fait en 1994, le ministère de l'Intérieur a accepté qu'on fait de l'observation d'une façon officielle, et on a fait sortir un rapport, mais après on a toujours continué à relever tout ce qui se passe dans ces élections en ce qui concerne leur falsification, c'est le mot. Un autre problème que j'ai relevé dans ce projet, c'est qu'il y a le problème de l'article 49 qui dit que le haut comité qui supervisera les élections peut accepter des observateurs dans les bureaux de vote. Et il y a des observateurs des partis, mais les observateurs de la société civile ne sont pas pris en considération. Donc, ce projet ne fait aucune place, à mon avis, aux observateurs de la société civile. Comme nous, à la Ligue et les autres associations de la société civile, comptant être présents dans ces élections pour faire notre devoir de citoyen et de société, de composants de la société civile. Donc, c'est, pour nous, c'est très important, cette question-là. Autre question qui, à mon avis, n'est pas très claire, le financement. Comme a dit maintenant CIEM, ils ont parlé du financement, mais le financement de la campagne. Il y a un problème. Vous avez en Tunisie des gens qui ont de l'argent. C'est ou bien des partis, ou bien des particuliers. Et des gens qui n'ont pas d'argent. Alors le projet dit cette campagne va être financée par publiquement. Bon. Et dans un autre alinéa, il dit que cette campagne peut être financée par des dons. Là, il faut organiser la question. C'est très, très grave parce qu'on peut acheter des voix. Et c'est très facile d'acheter des voix en Tunisie et surtout à la campagne. Moi, personnellement, j'ai supervisé en tant que Ligue des droits de l'homme en 1990, à Metline, je vous donne un exemple concret. À Metline, la Ligue a supervisé des élections à Metline, des élections municipales. Metline, c'est pas grand. Il y avait 40 bureaux d'électeurs seulement. On a pu les couvrir par des observateurs. Et après les élections, on a constaté que l'Ittihad Nisaï, comment on l'appelle, ils ont fait un tour sur toutes les femmes du village. Il y avait deux bulletins d'élection, une rouge et une d'une autre couleur. Celui qui apporte l'autre couleur, la femme qui apporte l'autre couleur a 10 dinars. Donc il y a eu tellement de gens qui sont allés pour se faire payer, allés voter pour se faire payer, en apportant cette chose-là. Cela m'amène à parler d'une autre question. Le projet n'est pas clair sur le bulletin de vote. Est-ce qu'il va y avoir un bulletin de vote ou deux, ou plusieurs bulletins de vote? Dans les élections qui sont organisées généralement sous l'égide des Nations Unies, parce qu'il y a une expérience des comités de l'Organisation des Nations Unies dans ce genre d'élections qui vont arriver chez nous, dans les pays qui passent à la démocratie. Toujours, il y a un seul bulletin de vote. Tu prends le bulletin pour qu'il n'y ait pas pression sur toi de la part de la famille, de l'entourage, des gens que tu connais dans le lieu. Donc tu prends un seul bulletin de vote, tu vas dans l'urne, tu fais une croix devant la personne que tu choisis ou devant la couleur que tu choisis. Et là aussi, je pose un problème. Il ne parle pas de couleur. Le projet ne parle pas de couleur. Bon, chez nous, il y a beaucoup de gens, un tiers ou un cinquième, je pense, de citoyens ne savent pas lire, surtout les vieux. Ils vont voter. Donc on doit leur mettre. Ça va être difficile, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de partis. Mais il faut résoudre aussi cette question. Un autre problème qui se pose maintenant, dont tout le monde parle, nous avons beaucoup d'indépendants en Tunisie. Et généralement, les indépendants ne veulent pas les scrutins de liste. Ils veulent les scrutins uninominal à un tour. À deux tours, pardon. Voilà, ils poussent vers ça. Et nous avons beaucoup de partis maintenant. Et là, je vais m'avancer parce que je vais poser des questions concrètes, qui ont eu lieu dans d'autres sociétés. Le scrutin uninominal, c'est vrai, il permet aux indépendants de se présenter en tant que citoyens, c'est leur droit d'être candidat. Ça, c'est vrai. Et il permet aux citoyens aussi de choisir quelqu'un qu'ils connaissent, une personne. Donc, ils connaissent. Et ils disent parfois dans des argumentaires que j'ai entendus à la radio ou à la télévision ou que j'ai lu dans la presse qu'on peut éventuellement parler à cette personne si elle, par exemple, ne défend pas les demandes. Nous ne défend pas pour les demandes sur la base desquelles on les a élues. On peut donc aller discuter avec elle pour qu'elle revienne sur ses positions, etc., etc. Mais la gravité, c'est l'autre face de la médaille, je vais vous parler de l'autre face de la médaille, la gravité du scrutin uninominal à deux tours, c'est qu'il fait une bipolarisation dans la société. Je vous donne l'exemple, par exemple, j'ai vécu en France, moi, j'ai vu les deux trucs, les deux. Scrutin de liste, scrutin uninominal. Quand les socialistes ont pris le pouvoir en 81, c'était le scrutin uninominal à un tour. Mais les socialistes ont promis dans leur campagne électorale qu'ils passent à la proportionnelle, le scrutin de liste à la proportionnelle. Et ça a donné quoi? Ça a donné qu'il y a le Front National à l'extrême droite a pu passer à l'Assemblée nationale et à l'extrême gauche aussi ça, le Parti communiste avec ses alliés a pu passer aussi grâce au scrutin de liste à la proportionnelle. C'est une proportionnelle pas intégrale mais une proportionnelle limitée. Si on n'a pas 10% des voix, on n'a aucun siège. Et les socialistes ont compris après que le meilleur moyen, et les socialistes et la droite ensemble, ils se sont alliés après ces élections-là pour revenir au scrutin uninominal à deux tours. Et ça a donné, ça, on est revenu à la bipolarité. En Angleterre aussi, il y a le scrutin uninominal à un tour, mais on est il y a toujours à un tour, il y a toujours ce qu'on appelle la bipolarité. Donc ça, le deuxième, l'inconvénient du scrutin uninominal. Quand vous prenez la société tunisienne, là, vous allez comprendre où va aller le vote. D'autant plus que nous allons élire une constituante. Donc, normalement, une constituante, c'est un contrat social. Et normalement, il devrait y avoir différentes familles de pensée politique. Il ne faut pas laisser deux grands partis prendre, discuter entre eux et faire concoter une constitution entre ces deux partis. Il faut que toutes les familles de pensée soient présentes dans la constituante. Après, on peut changer de mode électoral. Le seul mode électoral dont on parle aujourd'hui, c'est le mode électoral seulement de la constituante. Ce n'est pas le mode électoral d'après. Après, on pourra changer le mode électoral pour avoir une majorité et une minorité. Mais là, on n'est pas arrivé à ce stade, nous. Donc, à mon avis, le scrutin de liste avec une proportionnelle est meilleur. Mais comme on peut ne pas nous entendre sur les deux scrutins, moi je dis que peut-être, s'il va y avoir vraiment deux points de vue, donc on peut mélanger les deux. Et ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire faire pour une partie un scrutin de liste avec la proportionnelle et. La deuxième partie des délégués à la constituante peuvent être élus de cette façon-là. Et moi, je crois qu'on va aller vers cette direction. Parce que pour arriver à un compromis entre toutes les forces en présence, et le débat devient très aigu maintenant sur cette question-là, on va aller vers ce stade-là. Dernière question dont je vais parler, attends, je vois mes papiers. Ah, l'étranger. Moi, ce qui me chagrine, en Tunisie, il y a eu une avancée dans ce projet de loi, c'est qu'on a fait une commission électorale nationale, comme le demandait l'opposition d'avant, et des commissions régionales. Mais pour l'étranger, il y a beaucoup de citoyens en étranger, on n'a pas prévu une commission nationale électorale à l'étranger. On a prévu dans ce projet de loi que les ambassadeurs s'occupent de la question. Donc, je crois que pour l'étranger aussi, il faut faire des commissions à l'étranger. Voilà ce que je voulais dire. J'ai beaucoup d'autres observations, mais je ne veux pas abuser.
La même commission qui décline dans les régions.
Non, pour l'étranger, pour les Tunisiens qui habitent à l'étranger, pour les Tunisiens qui habitent à l'étranger, ils n'ont pas prévu de commission à l'étranger. Donc, régionale à l'étranger, pour l'étranger qui s'occupe de ça. Voilà, j'ai terminé. Bon, oui. Peut-être.
Merci, Maître Koussri. Maintenant.
Ah oui, excusez-moi. Un autre point, très très important à mon avis, pour contrôler les élections, le nombre des bureaux de vote. Très très important. Ils ont dit, dans le code électoral ancien, au début, il y avait tellement de bureaux de vote qu'absolument, on ne peut absolument pas contrôler. Puis il y a eu une petite avancée dans le code électoral ancien, dans les villes entre 450 et 60 électeurs inscrits. Dans les campagnes, c'est la moitié. Dans ce projet de loi, on parle de à partir de 800. À mon avis, il faut aller jusqu'à 2000. Je vais dire pourquoi. 2000 personnes par bureau de vote. Pourquoi? Parce que c'est les critères, grosso modo, utilisés par l'ONU. Par exemple, les élections. Non, non, je dis 2000 moins, 2000 plus. Je vais expliquer pourquoi. Il n'y aura pas d'élection en Tunisie à 100% d'inscrits. Hein. Il n'y aura pas 100% d'inscrits. Donc, si tu mets 2000 d'inscrits dans le bureau, il y en a moins, je ne sais pas, les deux tiers, etc., qui vont réellement voter. Première question. Deuxième question, nous, les avocats, on fait des élections tous les 3 ans. On fait des élections tous les 3 ans. Et je vous assure que de 9h jusqu'à 2h, dans les bureaux, il y a au moins 1500 avocats qui votent pendant cette période-là. Bon, pour ces élections-là, on peut doubler, pour le même nombre, on peut doubler le temps de 8h à 8h. C'est pour permettre que dans tous les bureaux de vote, les partis, les gens qui se présentent et des observateurs, pour qu'il n'y ait pas après, des procès, etc., pour que tous les gens soient contents des résultats, pour qu'ils voient. Et deuxièmement, pour permettre aussi à la société civile, qui n'est pas très forte, soyons honnêtes, d'être présente et pour mieux contrôler.
Merci, Maître Kousri. Maintenant, je passe la parole à Madame Virginie Vouan de l'International Media Support.
Oui, bonjour. Je suis Virginie Jouan. Je travaille actuellement pour l'Association mondiale des journaux, basée à Paris. Je travaille également au sein du groupe d'observation de la Tunisie, de l'IFEX, personnellement depuis plus de 4 ans. Et là, je suis ici pour juste évoquer brièvement, au nom de AMS, International Media Support, un projet d'observation de la couverture médiatique des élections du 24 juillet. Il y a 2 antécédents, les élections de 2004 et de 2009, avec des rapports qui ont été publiés à l'issue de ces observations. Et une initiative similaire est prise dans le cadre des élections à venir du 24 juillet. Donc il y a une coalition d'associations tunisienne qui est déjà en place et qui va commencer les préparations rapidement. Donc cet effort va être conduit par les femmes démocrates. La coalition comprend également le CNLT, la LTDH, le syndicat des journalistes et l'association de la femme tunisienne pour la recherche et le développement. Cette initiative, ce monitoring, en fait, s'inscrit de façon plus large, comme c'était le cas en 2004 et en 2009, dans le cadre du groupe arabe d'observation des médias, donc avec le soutien de AMS. Donc, comme je l'ai dit, l'équipe va être constituée et formée dans les semaines à venir, avec l'ambition, évidemment, d'être prête au début de la campagne et de pouvoir utiliser les outils méthodologiques, qualitatifs et quantitatifs qui répondent aux normes dans ce domaine. Donc, comme l'a rappelé CM, à la fin de son intervention, le rôle des médias dans une période électorale est essentielle. Certainement aujourd'hui, l'échéance du 24 juillet, la campagne qui va précéder, le rôle des médias à garantir un accès équitable aux partis politiques, aux candidats, à s'assurer d'un niveau élevé d'impartialité, aussi s'assurer que les citoyens seront suffisamment informés pour faire pour prendre une décision et aussi notamment que les femmes qui se porteront candidates à cette échéance et aussi un accès équitable aux médias. Il y a d'autres sujets qui seront, j'imagine, définis par cette coalition d'associations et à laquelle ce groupe d'observation attachera une importance particulière. Comme dans le cas des élections de 2004 et de 2009, un rapport sera préparé pour dresser un bilan et aussi, ce qui j'imagine sera très important aussi, émettre un certain nombre de recommandations parce que rapidement il y aura d'autres échéances électorales avec un rôle aussi très important à jouer par les médias, qu'ils soient d'État, peut-être bientôt public et privé, que ce soit l'audiovisuel ou la presse écrite. Et peut-être que cette initiative qui va avoir lieu dans les mois à venir, le rapport et les recommandations qui vont être faites pourront être utiles aussi pour les prochaines échéances électorales. Voilà tout ce que je voulais mentionner.
Merci, madame. Maintenant, on passe aux interventions. S'il y a des points à discuter, qui c'est qui veut prendre la parole ?
Oui.
Non, c'est le rapporteur. Oui. Bon, je préfère prendre la liste des intervenants et. Bon, c'est.
À quelle heure on doit finir ?
En principe, à 6h30. Ouais. Alors, madame ? Madame ? Salut. Madame ?
18h.
Ça y est. Oui. Oui. Madame Sana. Non. Il n'y a pas d'autres interventions. C'est. Oui, la plupart, c'est des femmes. Je n'ai pas fait le choix. C'est vrai, la plupart des interventions, c'est des femmes, oui. Madame, oui, d'accord. Bon, Madame Sané Benachou, de la TFD.
Merci, là. Non, non, je parle ici en... en tant que Sénéb Nachour, exactement. Exactement. D'abord, je voudrais vous saluer, Leïla Bahreïa, pour votre courage et votre abnégation. On sait, tout le monde ici, c'est ce que vous avez subi et ce que le régime vous a fait subir pendant des années. Ah, et vous l'avez combattu avec courage. Donc, vous avez toute mon admiration et tout, vraiment toute mon admiration. Bien, alors je voudrais revenir à quelques points évoqués par les uns et les autres, les unes et les autres, excusez-moi. Alors, à propos de la date, je voudrais commencer avec la date. Je suis d'accord avec Sihem Ben Sedrin pour dire qu'il est important qu'on travaille comme si on devait respecter les échéances. Je crois qu'en période électorale, en période de transition démocratique, le respect des échéances est très important. Pourquoi ? Parce que plus on retarde les échéances, plus les forces de l'ancien et les forces de la peuvent trouver le temps de se reprendre. Sincèrement, il faut, donc on fait tout, on fait tout. Je pense que la société civile ici, réunie ici, on doit main dans la main y aller le plus rapidement possible, le plus fermement, le plus respectueusement, sans tomber et dans l'improvisation, il ne faut pas bâcler, l'opération est très dure, les élections, ce n'est pas peu, mais il faut y aller, on fait tout pour réussir. J'ai l'habitude de dire que c'est une obligation de résultat, on la met sur nos épaules, essayons de la réussir. Je voulais sensibiliser sur cette question. Deuxième chose, pour ce qui concerne les conditions de candidature, j'ajoute, il y a quelque chose qui a manqué également au projet dont Anwar Kousri a parlé, qui nous a été distribué par la commission des réformes politiques, on va l'appeler comme ça, c'est les naturalisés tunisiens. Il n'y a de Tunisiens que par la naissance. Il y a les Tunisiens de père et de mère, on est très content que l'on l'ouvre pour les enfants de parents mixtes, mais les naturalisés, c'est-à-dire les Tunisiens, qui se sont les personnes qui se sont naturalisées, qui n'avaient pas la nationalité tunisienne, mais qui ont obtenu la nationalité tunisienne par le sol, donc c'est le droit du sol, il n'a pas été prévu. Donc je pense qu'il faut que nous, société civile, si on fait un mémorandum au nom de la société civile, on devrait l'inscrire pour que ce projet et que ce code électoral soit le plus respectueux possible de nos valeurs et de notre combat. Rapidement, Zeda, je ne veux pas accaparer la parole. Je suis contente d'entendre Anwar prêcher pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Et un peu comme il a été prévu, à la forte moyenne, etc. À la forte moyenne.
Moi, je dis qu'on mixe les deux.
En tout cas, j'ai compris le scrutin de liste, mais le scrutin de liste à lui seul n'est pas important. Je pense que le scrutin à la représentation proportionnelle, avec le jeu de la forte moyenne, permet de donner justement un paysage assez fidèle, disons. Une image assez fidèle du paysage politique. Bien entendu, il ne faut pas qu'on pose des problèmes en termes juridiques. Et encore une fois, il faut que nous, société civile, on pose la question en termes politiques. C'est notre droit. On est dans le champ public, il faut qu'on le pose. Et je pense que ce qui est important dans une constituante, c'est les majorités d'idées. Ce n'est pas les majorités de partis, c'est les majorités d'idées. Et donc, c'est vrai qu'on dit que l'uninominal permet aux personnes, il y a beaucoup d'indépendants, mais les listes aussi permettent aux indépendants de se présenter sur des listes d'indépendants. Le scrutin de liste n'empêche pas l'indépendance. Ceci dit, bien entendu, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Il est peut-être important que les indépendants cessent d'être indépendants et de s'engager. L'enjeu est important quand même aujourd'hui. On pouvait être indépendant du temps de Ben Ali. Et tout le monde comprend pourquoi il était indépendant. Comme on dit en arabe, c'est parce qu'il n'y avait pas de vie politique et qu'on ne voulait peut-être pas cautionner en rentrant dans les partis politiques. Pour beaucoup, en tout cas, je sais que pour beaucoup, ils ne rentraient pas dans les partis politiques pour ne pas cautionner ou ils avaient l'impression de ne pas cautionner. Donc, ils étaient jaloux de leur indépendance et je le comprends et c'était une forme de résistance. Ceci dit, j'appelle à ce que ce genre de rassemblement pour échanger, pour faire des mémorandums au nom de la société civile. J'appelle, et je finis sur ça, vraiment, donnons-nous le moyen de travailler main dans la main société civile, quelles que soient nos idées politiques, mais on a des valeurs en partage, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de la démocratie, de la transparence, d'élections disputées, tout le monde sans exclusive. Et j'ajoute, bien entendu, je ne voulais pas, bien sûr, la parité. Regardez dans cette salle comment la parité est naturelle. Chez les personnes qui partagent les mêmes valeurs, regardez la salle, elle est paritaire. La parité est naturelle. Dans les sociétés démocratiques, elle se fait naturellement. Elle se construit sans même qu'on soit obligé de l'imposer. Et donc, il est normal que les listes électorales soient des listes paritaires. Et donc, j'invite les femmes qui sont engagées aujourd'hui parce que c'est démocratique à s'engager encore plus et à être avec leurs camarades hommes pour aller vers cette grande et très belle aventure qu'est la constituante. Ou Kelmabak Maragé, parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on définisse si c'est une constituante lâchée, voilà, une constituante sous mandat. C'est-à-dire une constituante qui peut demain faire et légiférer et faire ceci ou poser le problème, poser entre nous. Voilà une constituante qui aurait le mandat de ne faire que la constitution. Vous comprenez? Donc il faut que nous, on ait ces idées-là. C'est
madame. Là, je oui. Merci. Madame Souraya. Madame Souraya. Oui. Non. Madame Souraya, puis Madame Belkis. Voilà.
Donc, Souraya Fersi. Je voulais effectivement rebondir un peu sur ce qu'a dit Sianour et sur ce qu'a dit Sénè. Justement, j'appartiens à cette, disons, je suis indépendante et j'appartiens à ceux qui aimeraient effectivement qu'il y ait... Hein? Bon, donc j'appartiens au groupe de ceux qui aimeraient effectivement qu'il y ait, que ce soit uninominal et que ce soit à la proportionnelle. Uninominal. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être vous donner un exemple qui pourrait peut-être être quelque chose qui soit adapté à la Tunisie. Je connais bien le système allemand, c'est pour ça que je vais en parler, mais disons, en Allemagne, quand on va au vote, on a un seul bulletin de vote où on vote pour les deux tours. Ça veut dire on vote tout de suite pour les deux tours. La moitié du Parlement est votée uninominal à la majoritaire, et l'autre moitié du Parlement est votée selon une liste, ça veut dire on coche le parti A, le parti B ou le parti C, et donc là, c'est l'autre moitié où ce sont plus ou moins les partis qui sont représentés. Ce qui est bien dans ce système-là, c'est que la deuxième moitié qui est votée, disons, à la proportionnelle et selon la liste, est une moitié qui est compensatoire, ça veut dire qui compense le déséquilibre qui est fait au premier tour au niveau de l'uninominal, ça veut dire à la majoritaire, parce qu'il va y avoir effectivement une déformation des votes. Donc là, il y a compensation. Donc il y a compensation déjà à ce niveau-là. Et c'est les lenders, donc les États qui sont représentés. Pourquoi je dis que ce système pourrait être bon pour la Tunisie? Parce que comme en Allemagne, ce sont les lenders qui sont représentés dans la deuxième moitié, ça veut dire dans le deuxième tour, nous, ce seraient les régions. Et je pense qu'effectivement, moi, je suis beaucoup plus pour une constituante sous mandat. Et donc, à partir du moment où nous sommes là pour voter une constituante, nous voulons élire des personnes qui ont des valeurs, donc qui représentent des valeurs. Nous voulons bien sûr avoir des valeurs universelles, des valeurs de démocratie, etc. Et donc, c'est la personne qui est importante. Et c'est aussi, il faut qu'il y ait une représentativité la plus large possible de tous les courants et de toutes les valeurs qui existent dans la... sur le territoire. Donc j'ai eu très souvent des remarques qui ont dit oui, mais deux tours c'est trop cher, etc. Là, je vous donne un exemple, c'est un seul bulletin de vote, on va une seule fois là-bas, et pour ce qui est des quand vous avez dit nous avons une large, disons, un groupe de personnes qui sont analphabètes et vous parlez de couleur, la couleur, je pense que c'est un peu difficile parce que si on a 30 ou 40 parties, les nuances de jaune et les nuances de vert et les nuances de bleu, ça va être difficile. Je pense que pour chaque partie, même pour les indépendants, il faudrait avoir une sorte de sigle, même en prenant des animaux, ça veut dire une vache et un cheval ou n'importe quoi. Ça veut dire que, oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas que toutes les personnes, ou bien un autre signe, mais en tout cas, que même les personnes qui ne savent pas lire ni écrire puissent, et même les daltoniens, ça veut dire puissent pouvoir reconnaître et pouvoir faire juste une croche. J'aimerais juste ajouter un petit mot. Ce qui est important dans la première partie, c'est que la première partie, c'est au niveau de ma circonscription. Et donc moi, au niveau de ma circonscription, je connais la personne. Et donc c'est important d'avoir aussi une personne à qui je peux me référer si jamais il y a quelque chose qui se passe après. Je m'excuse d'avoir été un peu longue.
Merci. Madame Belkis.
D'abord, je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, d'accord. Je vais être assez brève, puisque j'ai seulement une recommandation et une question. Ma recommandation, elle a été déjà faite, mais la chose qui me chagrine le plus pour le moment, c'est le respect des échéances, effectivement, parce que vu comment est composé le haut comité du respect des objectifs de la révolution et de la transition démocratique, etc. Il y a différents partis politiques et je crains que les divergences d'opinion et de prise de position de ces divers partis politiques risquent de retarder l'échéance qui est déjà fixée. Ceci d'une part. D'autre part, c'est justement de ces partis politiques, entre autres, que va dépendre le choix du scrutin. Du mode de scrutin. Je ne sais pas, Maître Anwar Kousri, on a parlé tout à l'heure, est-ce que le mode de scrutin a été déjà choisi par... Non, pas encore. Donc, effectivement, il va dépendre de, justement, des gens, des partis politiques qui composent, parce qu'ils vont avoir leur influence, eux aussi. Et je pense aussi que dans la salle, nous ne sommes pas synchronisés sur le même diapason. Je vois qu'il y a des gens qui ont une petite formation sur la question de mode de scrutin. Alors moi, ma deuxième recommandation, c'est que les médias doivent jouer leur rôle à la télévision, sur les journaux, pour nous informer sur les différents modes de scrutin. Et nous-mêmes, dans les associations, dans les partis politiques, nous devons aussi nous former personnellement pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Donc, voilà ce que j'ai à dire.
Merci. Madame Khadija Chef.
Merci.
C'est un raqm ba'at.
Merci. Je vais faire moi aussi des recommandations très rapides. Je remercie les différents intervenants et Madame la Présidente. Et je voudrais insister en ce qui me concerne sur les dates et dire à Sihem aussi qu'on doit tout faire ensemble pour qu'on respecte les dates. Et je crois que, oui, c'est pour ça que j'insiste, même au niveau de la feuille de route des ONG, on devrait travailler aussi sur ça parce qu'après ce qu'on a entendu des expériences des autres pays, tous les pays, que ce soit au niveau du Pérou, de l'Espagne, ils nous ont démontré que plus vite on ira vers la constituante, moins on aura des problèmes. Et le risque, c'est ce que disait Sané, c'est plus on va retarder, puis la contre-révolution joue. Et là, on a vu déjà les problèmes que nous avons vécus au cours de ces deux derniers mois. Et donc, essayons, et là, la commission du Haut... Enfin, la haute commission, c'est pas le haut comité, va faire en sorte que, malgré les divergences, et on est là pour apprendre à s'écouter et à négocier ensemble pour arriver à respecter ces échéances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux attirer l'attention aussi sur les listes uninominales. Personnellement, le scrutin uninominal, je pense que c'est un scrutin qui n'est pas favorable à une représentation réelle du pays d'une manière générale. Il y a un problème aussi concernant les femmes, parce que c'est les notabilités. Il ne faut pas voir la Tunisie, il ne faut pas voir les... et l'Allemagne, où est-ce qu'on en est? On n'est pas du tout au niveau de l'Allemagne, on n'a pas cette expérience, à mon avis. Et je pense que dans des sociétés comme les nôtres, les premières, et là, excusez-moi de défendre un petit peu, même si on considère qu'on n'est pas dans la parité, c'est que s'il y a des gens qui seront exclus, ce seraient les femmes. Parce que, et les jeunes. Parce que, et là, c'est problématique. Donc, il faudrait surtout, au moins pour la constituante, moi, je suis d'accord avec Anwar, que peut-être, pour plus tard, on pourrait changer le mode de scrutin. Donc ça, c'est un vrai problème, et Belkis a raison, il faut que l'on travaille pour, disons, vulgariser ce mode de scrutin. Je vais vous dire sincèrement, si j'étais pas dans la commission, peut-être que je ne me serais pas intéressée dans les détails au niveau des modes de scrutin, que je n'aurais pas compris et maîtrisé les choses. Mais on est obligé, et nous-mêmes, militants, on n'est pas habitué à la démocratie, on n'est pas habitué à voter, on n'a pas l'expérience, donc nous aussi, on est en train d'apprendre les points positifs d'un mode de scrutin et les points négatifs. Et ça, c'est un vrai. Et je pense que le deuxième mode de scrutin qui est proposé, à forte moyenne, donc proportionnelle à forte moyenne, est celui qui nous conviendrait le mieux et qui serait plus représentatif de la réalité tunisienne. Comme il a été dit, c'est que nous sommes en train de confectionner quelque chose qui correspond à notre réalité et pour faire réussir au mieux la démocratie et la meilleure représentation. Et c'est notre réalité qui nous le dicte. Voilà. Le dernier point, Samahni Saïd al-Raïssa, le problème de l'observation. Et ça, c'est essentiel parce qu'on a fait l'expérience et le rôle des médias est fondamental. Maintenant, j'ai dit le dernier point, mais c'était l'avant-dernier point. Le dernier point, c'est le nombre des circonscriptions et le nombre des bureaux de vote. Ça aussi, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on voit. Il y a des enjeux. Si l'ancien régime avait multiplié les nombres du bureau de vote, c'est bien pour ne pas permettre d'avoir, d'observer. Qui pouvait observer 13 000 bureaux de vote? Quel est le parti aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qui a les moyens d'observer les bureaux de vote? Or, là, c'est un problème. C'est aussi au niveau pratique. Il faut respecter et je pense être proche des normes internationales pour réussir au mieux cette expérience qui est nouvelle pour nous tous et toutes. Et il faut qu'on avance ensemble. Et je vous remercie.
Merci. Déjà, c'est Tarak Ben Hib. C'est votre tour. Minorité
visible. Pour une fois que les
femmes. Merci, je m'appelle Tarak Ben Hib, je milite dans l'immigration et dans les droits de l'homme en France à Paris. Moi, je souscris parfaitement à la première idée qui a été dite. Respectons l'échéance qui est proposée, ça a été dit. Et donc, ça veut dire, les experts l'ont dit, que le code dont il y a une proposition dans le journal Saber d'aujourd'hui soit adopté d'ici la fin du mois. Et je pense que la société civile peut programmer d'ici la fin du mois des réunions. Malheureusement, je ne compte pas trop sur les partis qui ont d'autres soucis, de place, machin, etc. La société civile, en tant que telle, n'ayant pas d'enjeu, elle peut offrir ses locaux, la Ligue, la TFT, l'AFTURD, etc. Cette coalition, elle a, me semble-t-il, l'obligation de multiplier ce genre de débat. Il n'y a aucune raison que ça se passe chez Raton, ce genre de débat. Il faut qu'on aille le plus loin possible pour comprendre les enjeux. Deuxièmement, avant d'en venir au mode de scrutin, je vais essayer d'être fidèle à un mandat de l'immigration. Pour la première fois, le principe de la représentation des gens de l'immigration, des étrangers, est posé à la fin de l'article 30, version Saber. Donc, il est dit que les Tunisiens de l'étranger doivent être représentés au sein du Conseil. Et je pense pour 10% du peuple tunisien, 10%, C'est bien, c'est magnifique. On l'a rêvé, on risque de l'avoir. De ce point de vue-là, je pense que c'est extrêmement important. Mais, ça a été dit par le premier par Anwar, il est scandaleux qu'il y ait une différence entre le droit de vote et le droit d'éligibilité. Ils ne doivent être jamais séparés. Ils sont séparés chez nous en France, par exemple à la chambre de l'industrie. Les travailleurs maghrébins, arabes, machin, ils votent, ils n'ont pas le droit d'être élus. C'est scandaleux. Le droit de vote doit être le même que le droit d'éligibilité. Et manifestement, il y a une contradiction entre l'article 2 et l'article 14. Tout le monde vote, mais pour les places, ça se restreint. Il n'y a pas plusieurs catégories de Tunisiens. Il y a un Tunisien, quelle que soit sa mère, son père, sa religion, etc. On est tous Tunisiens ou on ne l'est pas. Donc, va falloir expliquer à mesdames, messieurs, les camarades du Haut Conseil que, voilà, on veut la même chose pour tout le monde. C'est très important parce que ça a une conséquence directe chez nous là-bas, la double nationalité qui va se poser là, qui commence à être résolue. Et c'est très bien qu'on dise que l'histoire de par la femme, mais il faut aussi l'étendre. Et les pauvres footballeurs qui se sont tunisifiés pour pouvoir jouer, il faut leur donner le droit de vote aussi, je pense, personnellement. Bien. Le mode du scrutin, moi je salue l'intervention de la TFD faite par sa présidente hier, qui était manifestement claire, convaincante, bien travaillée. C'est-à-dire, j'ai été élu en France, vrai élu, hein, sans trafic, dans un conseil régional. Mais comme je m'appelle Benhiba, si je n'étais pas dans un scrutin de liste, je peux rêver, jamais. Benhiba devant Jean, il ne passera pas. Je fais allusion au racisme qui existe, y compris en matière politique. Quels sont les corps qui ont des difficultés à faire de la politique en Tunisie? Ça a été dit, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les gens qui portent des nouvelles idées comme l'intermondialisme, l'écologie, etc., etc. Tout ce qui est neuf pour percer dans notre solide, carapastique société tunisienne vont avoir des difficultés. Et c'est faux de dire que ça va limiter le poids des partis. Les partis sont là pour exister politiquement. Ils s'adaptent à tout ce que vous pouvez leur donner. La preuve, ça a été dit, cette soi-disant invention extraordinaire, elle existe en France. Elle met la France sous la coupe du Parti Socialiste d'un côté, de l'UMP, qu'on blague en disant l'UMPS, ils sont là, ils commandent à cause de ce maudit scrutin uninominal qui étouffe la société. Et dans une constituante, il faut absolument, sous peine de canner, d'avoir tout le monde. Et quand je dis tout le monde, personnellement, je prends mes responsabilités, ça veut dire de la gauche radicale à l'islam, à l'écologie, à la gauche paradicale, au libéralisme. C'est un moment rêvé. Sinon, on n'aura jamais ce qu'on cherche, cette fameuse constitution capable de donner une stabilité dans le pays. En Angleterre, justement, ils sont en train de réfléchir à faire sauter le verrou parce qu'il y a un troisième parti qui est en train de pointer son nez, le Parti libéral. Donc, scrutin de liste, et à la proportionnelle. Et il n'y a pas de danger. D'abord, c'est l'instabilité. Vous connaissez un pays comme l'Italie, soi-disant, il a été instable pendant 50 ans. Où elle est, l'instabilité? Il y a tous les jours du business, tous les jours le football. Qu'est-ce qu'il y a? À part les tremblements de terre, c'est vrai qu'il y avait... Mais si on réfléchit, c'était une fausse instabilité. Deuxièmement, on peut corriger la proportionnelle en donnant, par exemple, une prime, celui qui arrive, qui fait 50%, au lieu qu'il ait 50% des places, pour permettre de gérer et donc d'avoir une majorité, on dit le premier, il a une prime de 10%, de 20%, etc. Ça veut dire qu'à la fois on règle deux problèmes, tout le monde peut être présent dans un conseil, pensez aux conseils municipaux, peut-être aux conseils régionaux, j'espère qu'il y en aura en Tunisie. Donc en donnant une prime au premier arrivé, on stabilise le système et à la fois, surtout, on respecte la possibilité de donner à tout un chacun en Tunisie, quelle que soit sa couleur. Ensuite, les indépendants, ils peuvent se réunir, même d'une manière artificielle, pour aller sur un scrutin de liste de 3 ou 4, etc. En fait, quand on dit indépendant, c'est pas indépendant, c'est non encarté. Moi, je ne suis pas indépendant. Là, j'ai une vision du monde bien claire dans ma tête, mais j'ai pas eu la chance donc d'avoir un parti. Donc c'est scrutin de liste à la proportionnelle, avec éventuellement des corrections, et bien sûr avec l'immigration qui a beaucoup beaucoup besoin de retrouver sa mère de retrouver la Tunisie, pas seulement avec les histoires de douane et de cartouches de cigarettes. Et je termine là-dessus parce que pour nous, comme dit Abdelmalek Sayed, exister, c'est exister politiquement. Et merci.
Merci. C'est Abdelrahman.
Merci. Donc, je me présente, mesdames et messieurs.
Ça va? C'est bon?
Oui.
Dieu merci. Alors, je me présente donc, je suis Abdelrahman Belhajjaloul, magistrat tunisien.
Encore? Encore? Ah bon.
Ça ne marche pas le micro.
Donc, je suis membre du Conseil national de l'Association des magistrats tunisiens. Donc, pour mon intervention ici, je vais mettre l'accent sur le déroulement de l'opération électorale. Merci. Pardon ? Ah, c'est bon ? Ah, ben, ah, ben. Donc, je vais mettre l'accent sur le déroulement de l'opération électorale et sur le contrôle de cette opération selon le projet de décret-loi élaboré par le Haut Commission de réforme politique, et etc., etc. Merci. Donc, pour l'opération électorale, elle est mise sous la responsabilité d'un Haut Commission au comité indépendant électoral. Bon, ça représente quelques défis concernant son indépendance, l'impartialité de ses membres, le mode de désignation et surtout le degré d'acceptation générale que va engendrer ce comité-là. Parce que ça doit jouir d'un consensus social et public nécessaire à la sincérité et à l'efficacité de son travail. Donc, j'ai quelques observations concernant le mode de désignation de ses membres. Cette désignation se fait par décret qui émane nécessairement par la volonté du président de la République. Pour moi, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser à la libre volonté de monsieur le président provisoire. Pourquoi ? Parce que les critères donc ne seront jamais convaincants. Pourquoi nommer cette personne-là et non pas l'autre? Pourquoi avoir ce membre-là et non pas autre personne? Bon. Cette commission va être composée de 3 magistrats désignés toujours par le président, un membre proposé par l'ordre d'avocats, un autre membre proposé par l'ordre des experts comptables, 2 membres de la société civile et 3 professeurs universitaires. Le problème qui va se poser toujours, c'est la crédibilité ça doit être pour moi laissé ou faire un consensus social qui ne peut être obtenu actuellement dans l'état actuel des choses que par le Haut Comité des réformes politiques qui a une certaine représentativité, même un peu contestée, mais ça représente quand même quelque chose. Donc, concernant le contrôle des élections, le décret-loi nous propose un organisme ou un organe appelé la haute juridiction électorale. Ça doit être laissé à la juridiction normale et naturelle des Tunisiens. Alors, il y a le tribunal administratif qui est à l'inverse du corps, la magistrature du droit commun, ça jouit d'une certaine indépendance et il peut relever ce défi-là. Et merci beaucoup, monsieur.
Madame Chabet, s'il vous plaît, je vous appelle à être bref parce qu'il nous reste juste 10 minutes et pour 5 interventions.
Madame Charben a fait membre de l'association tunisienne des magistrats, magistrates aussi. Donc la question alarmante de nos jours en Tunisie reste de savoir quel serait le mode de scrutin à choisir pour l'élection. Le choix du mode de scrutin n'est pas anodin. Il aura un impact important sur la suite des événements. Il devra traduire les aspirations de la révolution sur le type de la représentation nationale que les Tunisiens veulent avoir. Donc certains partis politiques sont en faveur d'un scrutin national par liste. D'autres plaident pour un scrutin uninominal par délégation, comme il en existe des scrutins mixtes. Les débats autour des modes de scrutin s'expliquent souvent par la difficulté de concilier plusieurs buts et par des contingences politiques. Pour les proportionnalistes, donc un système électoral doit donner une image fidèle de la situation politique et du corps électoral. Pour les majoritaires, il vise à désigner une majorité d'élus capables de gouverner. Au-delà de la répartition des sièges, le choix du mode de scrutin correspond à une conception de la vie politique qu'il influence forcément, d'où la difficulté du choix. Pour que je sois bref, je crois personnellement que le scrutin d'ordre mixte, les scrutins proportionnels qui favorisent le multipartisme et qui donne un rôle important aux petits partis, peut être adopté dans notre prochaine élection. Et merci.
Merci. Maintenant, c'est Madame Saneh Wouchteti. Et s'il vous plaît, on essaie d'être bref parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Madame Saneh Wouchteti.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, en fait, je souhaitais adresser quelques questions pour avoir quelques éclaircissements à propos des personnes qui ont commencé à s'adresser à nous au début de la séance. Madame Bensedeline, vous avez parlé de la commission de Venise comme un partenaire privilégié de l'organisation des élections en Tunisie. Et j'aurais aimé vous demander donc de quoi il s'agit précisément. Est-ce une commission d'experts, une commission de praticiens ou plutôt un think tank qui serait plutôt doctrinal ou théorique sur les processus électoraux? L'autre question que j'aurais aimé poser, que je pose à Maître Rousseli Anouel, concerne ce qu'il a mentionné à propos d'un code de bonne conduite pour les élections et également cette cour qui aurait des compétences judiciaires pour juger des litiges électoraux, en fait, quels sont les critères qui sont attendus des membres de cette assemblée constituante? Est-ce qu'ils ont déjà été fixés? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde espère et souhaite vivement l'intégrité, la compétence, trouver également aussi une certaine expertise auprès des membres de cette assemblée constituante. Est-ce que ces critères ont déjà été présentés? Est-ce que les candidats que l'on voit s'acheminer vers la candidature à la constituante présentent d'ores et déjà ces qualités de telle sorte que, évidemment, ces qualités ne soient pas comptées, puisque vous voyez qu'aujourd'hui la société tunisienne est extrêmement sensible à toutes sortes de contestations politiques de tous bords. Donc j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Et l'autre point, c'est le financement des campagnes électorales. Est-ce qu'il va y avoir un suivi du budget des partis? Est-ce qu'il y a un contrôle des sources de financement? Comme vous savez, aujourd'hui, les régimes fiscaux divers des États autorisent certaines fuites par rapport au système fiscal étatique. Donc, est-ce que vous pensez ou vous savez s'il y a un contrôle qui va être exercé de manière vraiment efficiente et ciblée sur le système de financement des partis? Merci.
Merci. Madame Heger. Madame Heger. Et s'il vous plaît, essayez d'être bref.
Je voudrais attirer l'attention sur les personnes de nationalité étrangère, mais qui sont soit mariées à des Tunisiens ou vivent tout simplement en Tunisie, qui ont donc de ce fait participé à la révolution, vécu la révolution entièrement. Ces gens-là, j'ai cru comprendre que le projet électoral ne leur prévoit aucun statut particulier. Donc comment est-ce qu'on pourrait les faire participer ou les faire participer à la transition démocratique?
Merci. Maître Chameri.
Oui, merci. Alia Chef Chameri, je suis membre du mouvement autonome des femmes et avocate. Moi, je vous avoue que je suis un tout petit peu désemparée. Nous sommes appelés, en tous les cas au niveau des personnes qui sont dans le conseil, le haut conseil, avec beaucoup de noms après, je n'arrive pas du tout à le retenir, à sortir un code électoral le 31 mars. Je suis complètement analphabète en matière de mode de scrutin. Je vous entends parler depuis tout à l'heure de mode de scrutin de liste, de mode de scrutin proportionnel. Je suis avocate, j'ai quelques diplômes, mais je n'ai jamais pratiqué des élections libres et indépendantes dans mon pays ni ailleurs. Et comme beaucoup, les 10 millions de personnes, enfin peut-être qu'il n'y a pas 10 millions de personnes qui vont élire, électeurs, mais nous ne comprenons rien à ces modes de scrutin. Vous parlez de choses que nous ignorons. Et je dois décider, moi, avec les 71 membres de ce conseil, quel mode de scrutin nous allons prendre. Et je sais, par contre, que le mode de scrutin est fondamental pour l'avenir de notre pays, de notre démocratie et de ce qu'on va devenir dans quelques mois. Donc, il est fondamental de savoir ce que l'on doit faire et quel mode de scrutin on doit choisir. Il faut expliquer simplement, très simplement, et aux Tunisiens, et également, je dirais peut-être pas aux 70 personnes membres de ce conseil, mais au moins aux 65 personnes membres de ce conseil, ce que ça veut dire, les modes de scrutin. Et comme nous avons la volonté que la prochaine constituante soit une constituante vraiment démocratique qui garantisse tous les droits humains, l'égalité, la parité, la justice sociale. Donc il faut que ce soit un mode de scrutin qui fasse passer le maximum de personnes porteurs de ces idées, femmes et hommes. Donc on dit que c'est le scrutin proportionnel corrigé d'un scrutin, ça se complique encore plus. D'un scrutin de liste et uninominal. On dit que, mais pardon, de toute façon, uninominal, et on sait que le uninominal, ce sont les notables, les femmes sont exclues, ce sont les partis majoritaires. Tout à l'heure, Anouar, tu parlais de bipolarisation. Quels sont les partis, les deux partis que tu vois en tête de la bipolarisation? Moi, j'en vois pas, pour le moment. Pour le moment, je vois personne. on a cassé le RCD, hey. J'espère en tout cas, même s'il est en train de renaître autrement, il est en train de renaître autrement, mais il est explosé, il est en mosaïque. On a nada. Moi, je voudrais demander, je donne, je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes, mais nous avons des compétences en Tunisie qui peuvent expliquer ce que c'est, sans aller à l'avenir. Hey. Ah, elle est là.
Merci, merci, maître Chameri. Merci, merci, maître Chameri. Merci. Bon. Monsieur,
je m'excuse, je prends juste deux minutes.
S'il vous plaît, monsieur Mehdi Mziou. Monsieur Mehdi Mziou.
Allez,
déjà, on a dépassé l'heure de l'atelier.
Oui.
Monsieur Mehdi Mziou, s'il vous plaît. Monsieur Mehdi Mziou. سي مهدي مزيو
سامحوني بالنسبة للكلمة اللي باش نلقيها محمد مهدي مزيو قاضي وناشط بجمعية القضاة التونسيين بالنسبة للكلمة اللي باش نلقيها سامحوني حضرتها بالعربي كان فما إشكال كي رجعت القانون المشروع قانون بتاع الخاص بنظام انتخابات انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي استوقفتني للهيئة العليا ومن الهيئة العليا للانتخابات والهيئة القضائية وإن كان فيها ممثلين قضاة لكن بالنسبة للهيئة هذه هي نوعا ما هيئة إدارية وبالتالي هذا يطرح إشكالية كبيرة اللي هي علاقة القضاء بالانتخابات هذه ما عاشته البلاد في الآونة الأخيرة من ثورة شعبية لفتت أنظار العالم بتفعيلها لفكرة كونية جوهرية وحق اللي هي في حق الشعوب في تقرير المصير متاعها وتوقع للديمقراطية
يا سي مهدي حاول تعمله
أنا خاطر عندي كلمة سامحني خاطر فما تسلسل متاع أفكار مدبيا نوصل ولا يخفى علينا أن الثورة هذه هزت وزعزت جميع ومختلف هياكل وسلطات الدولة من أهداف الثورة هذه إسقاط النظام البائد المؤسسات المتعلقة بها وأيضا محاسبة مرتكبي الأفعال وذلك لغاية تأسيس لمجتمع ديمقراطي الحديث اليوم عن الديمقراطية وتمثيل إرادة الشعب يقتضي التطرق لمسألة الانتخابات سواء كانت هذه الانتخابات تشريعية رئاسية أو تأسيسية القضاء بوصفه سلطة من سلطات الدولة مدعو للعب دور كبير في هذه الانتخابات
سي مهدي سمحني كي بشقص عليك النص هذاك نوزعوهم بعد لكن تو أعطينا دي بوان لي بوان معناتها دي فلاش أي. دي فلاش
بالنسبة للتجربة التونسية هي خير دليل على أن الانتخابات تمثل ضمان لتكريس نظام ديمقراطي طالما كانت عارية من غطاء رقابي قضائي ومستقل احنا نقول ضرورة أن يكون القضاء مسير لكامل العملية الانتخابية القضاء الضمانة الوحيدة لإرساء نظام انتخابي شفاف يعكس إرادة الناخبين الحرة وهو جعل القضاء يلعب دور لتحسين لحسن سير الإجراءات الانتخابية وحسب رأينا الانتخابات هذه الحرة والنزيهة تعتبر مرآة الرأي العام وإصلاح نظام الانتخابات هو حجر الزاوية في بناء حركة إصلاح السياسي فإن ضمان سلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها لا تكون إلا عند وضعها تحت إشراف كامل للسلطة القضائية بالنسبة للقضاء الذي سيكون تحت إشراف العملية الانتخابية نلاحظ أنه في العقدين الأخيرين شهدنا سيطرة وهيمنة كلية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل على النظام القضائي والمؤسسة القضائية وإرساء نظام وصاية مكن من ممارسة إدارة رئاسية على المحاكم غير أن السيطرة هذه لم تمس من القضاة في شخوصهم فأغلبية القضاة هم قضاة مستقلين وفكرة الحياد هي حجر الزاوية في بناء وتكوين شخصية القاضي مما يجعله في منأى عن كل ما يمس من الاستقلالية متاعه وهو ما يجرنا بالقول بكون الأغلبية القصوى للقضاة التونسيين هم مستقلين وبمقدورهم الإشراف على العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين الممثل الوحيد للقضاة بوصفهم الأكثر دراية بالأوضاع الشخصية والمهنية والقادرين على تأطير القضاة من الناحية التقنية وشكرا
مدام راضية C'est la dernière intervention.
Euh,
Moi, je rejoins un peu ce que vient de dire Alia par rapport à la culture politique et à la vulgarisation. Je suis, en tant que citoyenne déjà, et avec les délais, j'ai le trac. Alors imaginez, en tant qu'activiste et représentant d'une association qui, en plus, fait partie de ce conseil. C'est vrai que le problème devient un peu, on panique un peu. Alors moi, en tant que pédagogue, j'ai un tableau. Et à chaque fois qu'il y a un argument pour l'uninominal, je le mets du côté de l'uninominal, il y a toute une école, Qais Saïd, etc., qui défendent l'uninominal. Et je viens ici, et je crois que Tarak et Sané m'ont un peu convaincu, éclairé sur le mode de scrutin. Bon, alors j'ai une question juste pour l'expérience allemande. Alors, dans un même, pour moi, les deux tours, normalement, le deuxième tour ne vient que si on a les résultats d'un premier tour, pour pouvoir choisir. Alors, ça m'a paru un peu bizarre et... J'aimerais bien avoir une, même si c'est après dans les... Dans... Bon, alors, la deuxième question que je pose, c'est à madame la représentante de l'AMS, de l'IMS, c'est ça ? AFS, c'est ça, mais en même temps, IMS, non ?
AMS aussi, oui.
Voilà. Alors, je pense que les monitoring des médias commencent deux semaines quand la campagne électorale est annoncée. Alors nous vivons en Tunisie, une campagne électorale qui ne dit pas son nom et qui a déjà commencé. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre pour cette question ? Et la dernière, j'appelle tout le monde, notre association depuis le 14 janvier a commencé une série de conférences dans un programme d'éduquer, informer pour réussir la transition démocratique et le 25 nous avons une conférence et une table ronde où on a invité trois spécialistes sur le mode de scrutin, un spécialiste marocaine, un Libanais et une Tunisienne qui vont nous parler de tout ça. Donc je vous invite, c'est ouvert, c'est le 25 et le 26 après-midi à l'AFTUR, de local de l'AFTUR. Merci.
Merci Madame Ravia. Bon, je passe pour clore, je passe la parole à Madame Bensedrine. Très brièvement,
il y a une question qui m'a été adressée concernant la commission de Venise. D'abord, je voudrais préciser avant de répondre que je n'ai jamais dit que la commission de Venise était notre unique source d'inspiration. J'ai simplement annoncé que la coalition des ONG entend faire la semaine prochaine, pas l'année prochaine, une conférence pour leurs adhérents collectif, c'est-à-dire tous les adhérents, sur où il y aura des experts, pas seulement de la Commission de Venise, des Nations Unies, de l'Union Européenne et d'autres pays que nous allons peut-être trouver pour justement, et surtout alors, je répète, des Tunisiens qui ont déjà participé à deux conférences, à part celle dont parle Ravia, il y a une conférence que le CNT a organisée au Mechtel, où il a invité quatre constitutionnalistes sur justement les modes de scrutin, et nous allons continuer ce débat ensemble parce qu'il faut que l'on comprenne et il faut que l'on se décide assez rapidement. Donc quand nous appelons à ce que des experts nous éclairent sur les différents modèles, ce n'est pas pour copier ceci ou cela, c'est pour nous-mêmes définir nos propres choix et choisir ce qui nous convient. Donc revenons à la Commission de Venise. Il s'agit d'un instrument qui a été mis en place par le Conseil de l'Europe en 2001 et qui a permis de travailler sur un ensemble de documents qui concernent les processus électoraux de A jusqu'à Z, et ces documents sont les références en termes de standards internationaux d'élections libres et transparentes. Donc si nous allons utiliser leurs documents, ce n'est pas du tout un think tank, c'est des documents, mais bien entendu, cette commission existe physiquement et nous allons les inviter à envoyer leurs représentants à nous parler de leurs instruments, mais ces documents, ils circulent déjà au niveau des ONG de la coalition, mais tous ceux qui souhaitent en disposer, donnez-nous votre email. Je suppose que quelqu'un ici peut ramasser les emails et vous allez les avoir tous. Et vous allez les lire. Il y a le code de bonne conduite, le financement des partis, la commission... Bon, je m'arrête. Donc, il y a des documents à lire pour comprendre et nous allons essayer de travailler avec ces standards internationaux, mais qui ne répondent pas à, spécifiquement, c'est pas des solutions toutes prêtes, c'est les standards.
Merci, CM. Madame Virginie.
Oui, juste brièvement pour répondre à votre question. Vous avez tout à fait raison. Normalement, ce travail d'observation se déroule pendant les 15 jours qui précèdent l'élection. Et il est évident, et ça a été dit depuis 2-3 jours lors de ces séminaires et conférences, que la campagne a déjà commencé. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la Tunisie, c'est que cet exercice de monitoring a déjà eu lieu en 2004. En 2009, le contexte était complètement différent. Donc, peut-être qu'une quinzaine de jours avant, c'était bien pour documenter et faire le constat d'une élection qui était jouée à l'avance. Aujourd'hui, c'est différent. Donc oui, je pense aussi qu'il y aurait un intérêt à commencer le monitoring rapidement.
Il va être fait.
Oui, mais
pour la
plus
transitoire.
Oui, plus rapidement
pour la
que
transitoire.
Oui,
et pour les élections.
Oui,
pour les deux.
Plus rapidement que ce que nous on avait prévu avec cette coalition. Donc oui, ça va être d'actualité parce que c'est important.
Merci, madame. Maître Anoukous.
Moi, je vais répondre très brièvement à trois choses. Premièrement, je reviens à l'idée de base. Nous allons élire une constituante, pas un parlement. Ce n'est pas les mêmes élections. Il faut partir de cette idée. Donc, ça veut dire quoi? Nous n'allons pas élire une majorité et une minorité, comme dans un parlement, pour gouverner. Nous allons élire une constituante qui doit être à l'image de la société tunisienne, qui représente tous les secteurs, toutes les familles de pensée, les jeunes et les femmes. Donc, ce sont des gens qui représenteront le peuple pour faire un contrat social qui s'appelle la Constitution. C'est ça, l'idée de base. Et donc, tout mode, pour arriver à ça, il faut un mode de scrutin qui peut nous rapprocher le plus de ça. À mon avis, si on pose cette base-là, on peut avancer, on peut trouver des accords sur la question du scrutin. Maintenant se pose un problème. Il y a évidemment quelques familles de pensée qui essayent de faire la constitution prochaine à leur image, à leur pensée. Donc elles font tout faire pour ne pas y arriver, pour ne pas permettre une représentation effective la plus rapprochée de ce que pense le peuple tunisien. Et le débat sous-jacent maintenant sur des techniques électorales, c'est pour arriver à ce genre de fin. Donc soyons vigilants. Première question. Deuxième question à laquelle j'insiste beaucoup, moi. Le financement. Attention, il ne faut pas se dire que dans une société comme la nôtre qui a fait une révolution pacifique, etc., il n'y aura pas d'achat de voix. Il y aura des achats de voix. Et le plus grave, c'est que l'achat de voix, on ne le voit pas. Mais il faut que dans le code électoral de la Constituante, il faut faire des garde-fous pour limiter le plus possible l'effet de l'achat de voix. On ne peut pas vraiment le supprimer à 100%, mais il faut trouver tous les garde-fous possibles. Troisième question qui m'intéresse moi personnellement, c'est le mode du scrutin. Moi, je suis pour, personnellement, le mode du scrutin de liste avec proportionnel. Bon. Mais si on ne peut pas trouver d'accord, parce qu'il faut aller à un accord, personne ne peut imposer son point de vue. Donc, limitons la casse. Je dis, essayons de faire mix, si on ne peut pas trouver d'accord. Mais j'aimerais bien qu'on trouve d'accord, un accord sur les listes électorales. Et j'ajoute que les listes électorales permettent que les gens exclus de la vie politique ou qui peuvent être exclus de la vie politique peuvent se trouver représentés dans la constituante en adoptant le scrutin femmes, hommes, etc. Les jeunes aussi, on peut imposer par exemple quota de jeunes dans les listes, etc. On peut tout faire. On peut tout faire dans un code électoral. Il faut savoir où on veut y aller. Dernière chose, malheureusement pour les résidents ici en France, qui sont étrangers, là on est déjà avec les Tunisiens pour pouvoir se représenter, les naturalisés ont été déjà exclus. Alors, les naturalisés ont été déjà exclus. Mais pour le droit de vote en tant que tel, il est déjà trop tôt pour la démocratie tunisienne. Attendons un peu. Mais moi, je suis pour le droit de vote des résidents étrangers. Personnellement, c'est ma position personnelle, parce que j'ai vécu en France. Parce qu'on a revendiqué ça en France. Et merci pour votre attention. Bon.
Merci. Merci. Merci à vous tous. Je dis que ce débat nous laisse tous à notre faim, parce qu'on n'a pas l'habitude des élections et c'est un grand défi de réussir les prochaines. Et merci à vous tous. Merci.